Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons encore un livre qui est plus vieux, hein, qui date de milliers d'années, de l'Ancien Testament, et au moins 2000 ans pour le Nouveau Testament. Et il est toujours d'actualité. J'avais un pasteur qui disait, si je veux savoir les nouvelles de demain, je lis la Bible. Parce que demain, la Bible en parle. Elle ne nous donne pas toutes les explications de notre vie demain, mais elle dit, si vous voulez vivre heureux, suivez mes instructions. Alors, pour commencer, je voulais vous souhaiter les vœux de bonheur, mais je voulais vous donner quelque chose de la part de Dieu. Et j'ai vu dans la troisième épître de Jean, donc le verset 2, alors vous m'excuserez si de temps en temps j'enlève et je remets mes lunettes, j'ai constaté, je ne sais pas si c'est un constat, que j'ai pris un coup de vieux ce moment-ci. Hein? Donc je suis obligé de mettre mon vélo, hein? Sans dopage. Alors voilà ce que le verset 2 dit, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et ça pour toute l'année et des années que Dieu nous permettra encore de vivre ensemble et vous permettra de vivre dans sa fidélité, dans son amour. Alors je vais faire comme tout le monde, je vais mettre la toque en plein. Voilà, donc ce matin, c'est avec une grande joie que je suis ici, parce que on devait se disputer avec Édouard pour savoir qui allait prêcher, et finalement, c'est moi qui ai gagné. Hein? Je ne sais pas si je suis plus fort ou quoi, mais enfin, voilà, j'ai été plus convaincant. Merci Édouard. Mais il m'a dit que vous aurez la prochaine fois le message qu'il a préparé. Hein? Donc, il va pouvoir le réchauffer, le mettre... à bouillir jusqu'au moment où le Seigneur lui permettra. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Je dis toujours que l'hasard, c'est dans la Bible qu'on en parle. Mais le hasard, ça n'existe pas. Ce sont les choses que Dieu veut que nous pratiquions. Alors, ce matin, je voulais vous parler de la reconstruction de la confiance en Dieu. Et pour cela, souvent on parle des hommes, hein, dans la Bible, c'est toujours les hommes et les hommes et les hommes. Et ici, je voulais parler de trois femmes. Hein? La première, on le trouve dans le livre de Ruth, au chapitre 1, verset 5. Normalement, il faut lire toute l'histoire de Ruth. Mais au verset 5, on lit ceci. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors je vais dire le deuxième passage, c'est dans Genèse, au chapitre 21, les versets 14 et 15. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'un arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Et le troisième passage que je vous invite à lire, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 2 et 6, où il est écrit, Elkana avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Alors, on voit trois dames dans le désespoir. Mais je voulais vous raconter un petit peu l'ambiance qui concerne ces femmes-là. Alors, la première, elle s'appelle Naomi. Naomi veut dire « ma gracieuse ». Et son mari s'appelait Élimélec. Élimélec, sans vouloir faire de l'hébraïsant, veut dire « Dieu est mon roi ». Et les noms des deux fils qu'on voit ici, Mahlon et Kilion, c'est le premier, ça veut dire malade, et le deuxième, qui languit. Donc elle avait des fils, hein. Ils étaient maladifs. Et figurez-vous qu'ils habitaient à Bethléem, à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem. Bethléem veut dire maison du pain, donc maison d'abondance. Et quand je vous invite à lire le livre de Ruth, c'est un très beau livre. D'ailleurs, c'est le premier livre que ma sœur Ruth a lu quand elle a commencé à lire, parce qu'elle a dit « je veux lire le livre qui parle de moi ». Et j'ai une sœur qui s'appelle Esther. Son premier livre, ça a été Esther. Mais on voit que dans la maison de l'abondance, la maison du pain, eh bien, il a manqué de pain. Il y a eu la famine. Et l'Éternel est mon roi et sa gracieuse sont partis vers Moab. Et dans le pays de Moab, là, ils ont trouvé un logement. Et les enfants, Kilion et Mahlon, se sont mariés avec des Moabites. La première s'appelait Ruth, qui veut dire amitié. Et l'autre, Orpa, qui veut dire elle a un coup raide, donc elle est dure, elle ne veut pas se laisser. Bon, c'était pas difficile, hein, avec des maris qui étaient malades et chétifs. Et puis voilà que on ne sait pas combien de temps ça a duré, leur mariage. Élimélec est décédé au pays de Moab. Et Mahlon et Kilion sont morts aussi, laissant trois veuves, donc Naomi, Ruth et Orpa, les laissant dans le pays où là il devait y avoir de l'abondance. Voilà-t-il pas que on apprend, c'était pas avec le GPS, non, le GSM ou l'Internet, mais on apprend que à Bethléem, dans la maison du pain, on a recommencé à avoir à manger. Et Naomi a dit, ben moi, écoute, j'ai ma maison là, je vais retourner, puisque j'étais la gracieuse, je vais retourner. Hein. Moi aussi, je suis gracieux, hein, j'habite à Grasse, Hologne. Hein. Mais elle est retournée et elle a demandé à ses deux filles, voulez-vous venir avec moi? Et ces deux belles filles ont insisté pour l'accompagner. Je continuerai ma petite histoire après. Pour le moment, je vais reprendre l'histoire avec Abraham. Il avait une femme qui s'appelait Sarah. Et Abraham veut dire père élevé, père de multitude. Sarah veut dire princesse. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est pas que je veux faire le malin. Mais souvent, quand nous lisons les noms bibliques, on se dit, mais quel nom tordu! Quel nom difficile à prononcer! Mais chaque nom a une importance. Si par exemple, vous lisez les noms de la généalogie de Jésus et que vous passez votre temps à faire une traduction, hein, il y a des livres, des dictionnaires bibliques, etc., vous allez avoir tous les noms, vous allez voir que il y a toute une histoire et une orientation dans la vie du peuple d'Israël, uniquement avec les noms des 3 fois 14 générations dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Le père élevé, le père d'une multitude avec sa princesse, ben il n'avait pas d'enfant. C'était triste. Alors qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'est que la femme principale pouvait offrir à son mari sa servante. Vous savez, Moïse et les 10 commandements n'étaient pas encore là. Hein. Donc, on peut lire aisément tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament sans penser à l'adultère, etc. Il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc, c'était permis. Et vous savez, la Bible est encore intéressante à ce niveau-là, c'est que quand on lit, eh bien, on voit que la femme qui ne savait pas avoir d'enfant pouvait enfanter d'une certaine manière. C'est que quand c'est le moment d'accouchement, elle mettait la dame qui allait accoucher en position pour recevoir l'enfant sur les genoux. Et c'était une façon pour elle de dire, c'est mon enfant. Donc, quand Agar qui veut dire fuite, hein, ça veut dire fuite, ou bien elle fout le camp, ou bien une dame qui ne savait pas garder sa langue dans sa poche. Hein, donc, elle avait des fuites. Hein, donc, elle, voilà. Hein. Et Abraham habitait à ce moment-là à Beersheba. Alors, on est allé avec un groupe, enfin, plusieurs fois, mais cette année-ci, l'année passée, avec un groupe, et on est allé loger à Beersheba. On est passé tout près du puits d'Abraham, et le puits de Beersheba, ça veut dire le puits du serment. Alors, vous voyez que tous les noms ont une importance, et le mot « Sheba » en hébreu veut dire « sept ». Donc, pourquoi le puits des sept? Parce que Abraham, quand il a fait le serment avec donc l'alliance avec Abimélec, pas Élimélec, mais Abimélec, il a offert sept brebis. Donc c'est ça que ça veut dire Beersheba, Ber puits des sept. Donc il a offert sept brebis. Et alors il y a eu une petite dispute entre Agar et Sarah. Parce que elle commençait à prendre le pas sur l'autorité de comme femme, comme épouse sur d'Abraham. Donc il y en a une qui était jalouse parce que l'autre avait enfanté, elle ne savait pas enfanter. Et puis on raconte que dans la Bible, naturellement, on raconte que trois personnes sont venues parler à Abraham. Et vous savez, c'était pas des maisons en dur qu'il y avait à l'époque, c'était des tentes. Des tentes de bédouins qui font à peu près la superficie de la salle ici, mais en longueur. Hein. Donc il y avait des chambres, il y avait tout, mais c'était tout qui communiquait. Sarah, n'ayant pas d'enfant, elle se languissait, et elle est arrivée aux environs 80 ans, elle n'avait toujours pas d'enfant. Et puis, voilà que ironie du sort, les personnes qui sont venues rendre visite à Abraham lui disent « L'année prochaine, tu auras un enfant de Sarah. » Abraham dit « Mais écoute, c'est pas possible. » Alors, à Dieu, tout est possible. Et Sarah qui a entendu ça, elle a commencé à rigoler. Elle dit « Moi, à 80 ans, je commençais à mettre des langes à des enfants. C'est pas possible. » Agar était certainement en train de servir et elle a entendu que les personnes disaient à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Ta descendance sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et plus nombreuse que le sable des plages. Alors, elle a dû se dire, mais il y a de la rigolade ici. Ou bien on parle de mon fils, ou bien, je ne sais pas. Et l'année suivante, Sarah a accouché d'un enfant qui s'appelle Ismaël, qui veut dire « Dieu entend ». Dieu entend nos souffrances, il entend nos cris intérieurs, il entend tout ce que nous disons, tout ce que nous souffrons. Et là, elle prend la décision de dire maintenant, il va y avoir une lutte. Qui va gagner ? Je parle maintenant du troisième verset que nous avons lu, avec Elkana et ses deux femmes. Il avait une femme qui s'appelait Anne et l'autre Pénina. Alors, Elkana veut dire « Dieu a acquis ». Anne veut dire « grâce », tiens, grâce comme Naomi. Hein. Et Pénina veut dire « bijou ». Et là, elles étaient les deux femmes mariées de Elkana. Donc Dieu a acquis, hein, il a acquis deux femmes, le pauvre. Hein. Mais là aussi, il y a une tristesse. C'est que Pénina, elle accouchait presque toutes les années, hein, tandis que Anne était d'une tristesse vraiment terrible parce qu'elle ne savait pas avoir d'enfant. Maintenant, bon, ça ne se pose plus de la même façon. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut décider quand on veut des enfants, quand on n'en veut pas. Bon, il y a toutes sortes de choses. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas les allocations familiales. Il n'y avait pas le CPS, il n'y avait pas le chômage. Il n'y avait pas toutes les aides qu'on peut avoir. Donc, il fallait qu'il y ait beaucoup d'enfants pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille. Il n'y avait pas de maison de repos, il n'y avait pas des orphelinats. Donc, quand les parents mouraient, c'était la famille qui prenait en charge tout. Donc, il fallait des enfants pour travailler, pour aller... quand je dis travailler, ce n'est pas toujours un travail avec de l'argent, mais c'était aussi... aller garder les moutons, le bétail, labourer un petit peu, une saison par-ci, une saison par-là. Et tout ça, au bout d'un certain temps, on pouvait revendre du bétail ou du pain, du blé, etc. À d'autres pour avoir un peu de monnaie. Et puis il est arrivé que Anne accompagnait Elkana dans la maison de Dieu. Et là, si vous lisez le récit dans 1 Samuel, vous allez voir que Anne était en train de prier dans le temple. C'était pas un temple, le temple de Jérusalem, c'était à Silo. Et elle était en train de parler tout bas. Elle répandait son cœur devant Dieu. Et le souverain sacrificateur vient la trouver et lui dit, écoute, comme c'était une fête, hein, vous savez, là, dans les fêtes, en général, à l'époque, il y avait du vin, il y avait toutes sortes de victuailles, etc. Et le souverain sacrificateur vient la trouver, lui dit, écoute, ne viens pas cuver ton vin ici dans la maison de Dieu, va à l'extérieur. Et alors la femme, Anne, dit tristement au sacrificateur Élie, écoute, je ne suis pas en train de cuver mon vin, mais je suis en train de prier, de répandre mon cœur devant Dieu, parce que je n'ai pas d'enfant, et je voudrais bien, en tant que femme, m'épanouir et avoir des enfants. Et là aussi, il y a eu une promesse qui a été faite, c'est qu'elle aurait un enfant l'année suivante. Alors, je reviens à la première, à Naomi et Ruth. Quand elles sont parties de Moab, les deux belles filles suivaient la belle-mère, et à un moment donné, la belle-mère dit, écoute, ne me suivez pas, restez dans votre pays, vous êtes jeunes, vous pouvez encore vous marier et avoir des enfants, etc. Il n'est pas dit qu'elles avaient des enfants, donc elles étaient sans enfants, donc c'était trois dames qui se promenaient dans le désert. La première, Ruth, dit, écoute, là où tu vas, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, et ce que tu auras, je partagerai avec toi. Et Orpa a dit, bon, écoute, puisque tu insistes, je retourne dans mon pays. Et elle est retournée au pays de Moab. Quand Ruth et Naomi sont arrivés dans le pays de Bethléem, ça a été une fête de retrouvailles. Et là, elle a pu être restaurée dans sa fonction, dans son habitat précédent, et elle a eu la joie de voir que Ruth se faisait bien dans le pays dans la région de Bethléem, et en tant que veuve, elle pouvait se remarier. Et Dieu a arrangé les choses aussi bien et même mieux que ce qu'on pouvait le faire. Donc, si vous lisez le livre de Ruth, vous allez le voir. Elle a trouvé un mari qui s'appelait Boaz. Et vous savez quoi? Ruth est devenue l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Elle ne le savait pas, naturellement. Hein. Mais de Boaz et de Ruth sont nés David, plus tard. Donc, Boaz et Ruth ont marqué un coup en étant fidèles. La reconstruction était que de cette lignée-là, il devait sortir quelque chose de bon. Et c'est le Messie qui est sorti. Donc Jésus, celui que nous adorons. Donc, si vous regardez dans la généalogie, dans Matthieu, Il n'apparaît pas dans Luc, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait une autre explication. Si vous voyez, Ruth apparaît dans la généalogie. Et aussi une autre dame, une prostituée, Rahab, qui a aussi aidé, mais il y a des femmes dans la généalogie de Jésus. Quand Abraham a chassé Agar, parce qu'il y a eu des disputes entre Agar et Sarah, il ne pouvait pas rester cohabiter, puisque, vous savez, jalousie, quand tu me tiens, hein, je ne sais pas si vous avez de longs cheveux, certainement, mais elle se crêpait le chignon. Hein, et c'était pas ce qu'on désirait. Abraham, qui était promu père d'une multitude, il avait deux femmes et deux enfants et qui se disputaient tout le temps. L'un parce qu'il disait « je suis plus âgé que toi », hein, et puis « zut, zut, je suis plus malin que toi », etc. Et Abraham prit la décision de chasser la servante. Et alors la servante va dans le désert de Beersheba, et là, avec une outre d'eau, une outre en peau et du pain, elle erre comme ça dans le désert, en sachant que dans le désert, il n'y a pas grand-chose, il n'y a même pas de l'ombre. Hein. Là, elle a épuisé l'eau, elle a épuisé le pain, elle a épuisé toutes ses ressources. Elle n'a fait qu'une chose, quand tout a été épuisé, c'est qu'elle a laissé son fils sur le côté. Elle s'est éloignée d'un tir d'arc, peut-être une vingtaine de mètres. Un mauvais tireur peut-être, je ne sais pas, pour ne pas voir son fils mourir, pour ne pas assister à quelque chose de dramatique. Elle était perdue, elle était au fond du puits, tout comme Naomi, quand elle était dans le pays de Moab. Elle savait qu'elle n'était pas dans le pays que Dieu lui avait donné. La maison du pain, vous imaginez. C'est comme si on disait à un boulanger, bon, maintenant tu n'as plus de pain, tu ne sais plus en faire, tu pars. Et là, Agar prie. Elle dit, Seigneur, aide-moi dans ma détresse. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? La seule solution, c'est de fermer les yeux, après avoir vu mon fils fermer les siens. Et puis voilà, tout est terminé. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu que ça se termine comme ça. Dieu a permis à Agar d'avoir la visite d'un ange qui lui a dit « Agar, réveille-toi !» Et elle a cru voir un mirage, hein, dans le désert. Ce n'est pas difficile. Hein. Et là, dans le désert, elle a vu un ange qui lui a dit « Lève-toi et bois !» Elle a dit « Mais comment est-ce que je peux boire ?» Et là, il y avait une source qui est apparue, et elle a pu boire, et elle a pu aller dans le pays que Dieu lui avait montré, qu'elle continuerait à marcher. Et vous savez, la promesse qui a été faite à Abraham, d'avoir une descendance nombreuse, il a eu Ismaël, qui a donné naissance au peuple juif. Hein. Eh bien, Agar a eu la même confirmation. Ismaël sera aussi le père d'une multitude, et c'est le père des Arabes. Donc, tout ce qui est sémite, hein. Isaac, pardon, j'ai dit Ismaël. Bon, Isaac, c'était, merci, bon, c'est pour montrer que les, il y en a qui suivent bien, hein. Merci. Donc, Isaac était le fils d'Abraham, et lui, il a eu la promesse de qu'il est le père des Juifs, hein. Et Ismaël était celui pour le peuple sémite. Dieu a relevé Ruth et Naomi et il les a restaurés dans leur état qui était mieux que l'état premier. Puisque au départ, Naomi était seule avec son mari et ses deux enfants. Elle est partie, elle a perdu son mari et ses deux enfants, mais elle est revenue avec une richesse, avec une amie. Son amie. Agar est partie dans le désert, elle a continué son chemin, et elle est devenue la, une mère heureuse de voir son fils qui a grandi et qui s'est marié dans, avec des Bédouines, certainement, dans le coin. Et puis, Anne, qui était d'une tristesse disgracieuse, malgré qu'elle était grasse, Dieu lui a permis d'avoir un fils. Et ce fils s'appelait Samuel. Samuel veut dire Dieu entend, Dieu a exaucé. Donc, la prière que Dieu entend est toujours une prière que Dieu exauce. Alors, bien souvent, on me dit, mais Salvatore, jusqu'à présent, j'ai pas encore vu de réponse à mes prières. Alors, j'étais en voiture et j'écoutais la radio, je vais pas dire laquelle comme ça, et j'ai entendu, dans le petit speech qu'on faisait, qu'on a parlé d'une méthode de prière qui s'appelle push. P-U-S-H. Alors, en anglais, push veut dire pousser. Mais ça peut être aussi les sigles de pray until something happens. Donc, prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Alors, je vais vous inviter à essayer de prier la prière push. Quand vous n'avez pas la réponse tout de suite, nous sommes tellement impatients. Nous voudrions que à peine notre amen de fin de prière dit que vous, on reçoive la chose que nous avons demandée. Mais Dieu veut exercer notre patience. Il veut exercer notre foi, notre confiance en lui. Et quand on n'a pas la chose que nous avons demandée, demandons-nous si c'est vraiment selon la volonté de Dieu. Quand on demande quelque chose, souvent, on demande parce que on a un besoin immédiat. Mais vous savez, Dieu peut pallier aux besoins immédiats et il peut nous donner bien au-delà de ce que nous demandons et même espérons. Si nous faisons confiance au Seigneur, nous aurons ce que notre cœur désire, selon sa volonté. Bien souvent, on dit, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite au ciel. Mais sur la terre, je ne sais pas si elle est tellement bien faite. Hein? Parce que quand on voit tout ce qui se passe, Dieu veut reconstruire sa paix sur la terre. Les anges, à Noël, hein, le jour de la naissance de Jésus, il a dit, paix aux hommes de bonne volonté, paix aux hommes qui agréent la paix. Souvent, il y a des gens, des couples qui se disputent ou qui ne sont pas bien, mais c'est parce que la paix n'est pas installée. Il y a une paix relative, mais Dieu veut une paix profonde. Il veut une paix qui va jusque profondément dans notre être. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, il dit une chose. Si nous remettons chaque chose entre les mains de Dieu, dans la prière, dans l'action de grâce, il faut dire merci, avant d'avoir ce que nous avons demandé, avant d'avoir l'accomplissement de ce que nous avons demandé, il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Ces trois femmes étaient dans le désespoir, elles ont cherché une solution. Et hors des trois, il n'y a que Naomi qui a trouvé une solution. Elle est partie. Elle a pu fuir la famine. Elle a récupéré des biens. Et puis elle est revenue et Dieu a refait sa vie. Il lui a redonné toute une vie avec des petits-enfants, pardon. Et toute une vie qui a été reconstruite avec ses amis, etc. Agar, on n'en parle plus. Après, on n'en parle plus dans la Bible, sauf dans l'Épître aux Galates. où on cite Agar comme étant le Sinaï en Arabie. Et ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est pas des noms qui courent dans la Bible. On en parle dans le Nouveau Testament uniquement pour citer quelque chose. Anne, on n'en parle plus non plus, mais de son fils Samuel, on a dit que c'était le plus grand juge d'Israël. C'était aussi un prophète. Il n'y a pas eu de plus grand que lui, à part le prophète Élie. Mais ça a été celui qui a lancé la fonction de juge en Israël. Donc le juge, c'était celui qui pouvait conseiller, reconstruire une situation dans le pays d'Israël. Et nous, nous avons le Saint-Esprit pour nous reconstruire. Si nous lui faisons confiance, le Saint-Esprit va nous donner ce que nous avons besoin. Quelle qu'ait été notre situation avant, Dieu ne fait pas de différence, il voit seulement la personne maintenant. Il voit une personne qui veut lui ouvrir son cœur et qui veut marcher en nouveauté de vie, en reconstruction avec Dieu. Si nous sommes fondés en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes reconstruits en Jésus. Et avec lui, nous sommes héritiers de la vie éternelle. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ne font qu'un avec le Seigneur, eux, ils sont héritiers, co-héritiers de la vie éternelle avec Jésus. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est pas notre situation passée, c'est notre situation présente qui est importante. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux être reconstruit. Je veux être rebâti par toi. Oh, vous savez, il y a des personnes, quand ils rafistolent une maison, ils rejoignent toi un peu, ils rafistolent un petit peu comme ça, et puis ils disent, ma maison, elle est bonne. Mais ça, c'est pas une reconstruction. Reconstruction, il faut savoir avoir le courage, quelquefois, de démolir certaines choses pour reconstruire et permettre que ce soit du solide. Et je vous engage à faire de même avec votre vie intérieure. De ne jamais oublier d'où nous venons et de savoir que notre vieille habitation n'aura rien à voir avec la nouvelle. Si nous pouvions faire des photos intérieures de notre intérieur avant et des photos après, on verrait la différence. Tout comme une maison qui a été rénovée ou restaurée, on voit la différence entre le passé et le présent. Mais ça, c'est notre volonté. Elle joue aussi notre volonté. Si nous voulons laisser le Seigneur agir, il va agir. Il va faire en sorte que nous soyons vraiment une nouvelle construction. Dieu veut reconstruire, il veut rebâtir, pas sur ce qui est ancien, mais sur du nouveau. Sur le roc. Jacques, là, je crois que la semaine passée, il y a 15 jours, il a parlé de la maison sur le roc. Hein. Nous devons construire notre maison sur le roc. Si nous pouvons faire comme, je crois que c'est aux États-Unis ou au Canada, hein, on met des maisons sur des grands tracteurs, hein, des grandes remorques. Et alors on peut déplacer la maison et aller la mettre dans un autre endroit. Dieu veut faire la même chose avec nous, mais quand la maison est remise, il y a toujours quelque chose qui ne tient pas. Et là, il y a une petite reconstruction à faire, une mise au point, et Dieu veut nous aider. Laissons le divin architecte, le divin constructeur, celui qui est l'entrepreneur par excellence, faire de notre vie un instrument sur lequel nous pouvons jouer et lui faire toute la belle musique que lui veut entendre. Amen.